Le 7-9 de Matin Première.
Il est 7h49 sur la Première. Bonjour Daniel Welter.
Bonjour.
L'invité de la matinale ce matin, c'est l'historien Alexandre Adler.
Oui, historien, journaliste, professeur et surtout grand spécialiste de l'Union soviétique. Il connaît personnellement Vladimir Poutine pour avoir notamment déjeuné avec lui dans sa datcha il y a quelques années. Militant communiste, étant jeune, Alexandre Adler a fini par travailler pour Le Monde et Le Figaro. Il parle russe. Et avec lui, on va essayer de mieux comprendre ce qui se passe dans la tête de Vladimir Poutine. Qui l'a façonné? Comment tout a basculé, ce qu'il recherche, jusqu'où peut-il aller, est-il devenu fou?
Et nous avons 10 minutes devant nous. Bonjour Alexandre Adler.
Bonjour et bonjour Daniel.
Qui est Vladimir Poutine? Un homme désespéré ou un homme désespérant, voire les deux, Alexandre Adler?
Oh ben vous avez déjà formulé la vraie réponse. Il était effectivement désespéré, mais le désespoir chez Poutine et de longue date. C'est un enfant qui a été pratiquement martyrisé lorsque son père a été envoyé au goulag. Mmh. Il est resté longtemps et il a été dans les orphelinats soviétiques. Je ne vais pas vous faire des descriptions à la Dickens de l'orphelinat soviétique, mais personne ne sort indemne de cette épreuve. Et c'est très exactement ce qu'un certain nombre de vieux amis de son père ont pensé. Ils savaient qu'il ne pourrait pas sortir de prison, le père donc Broverman, mais en revanche, ils ont dit à Andropov, tu dois faire quelque chose pour notre vieux camarade, et tu dois absolument essayer au moins de sauver l'enfant.
Oui, parce que pour vous, en fait, Vladimir Poutine, c'est le fils de deux génies, c'est ça? Son père biologique dont vous venez de parler, et puis son père adoptif.
Et oui, parce qu'en fait, bien entendu, il n'est pas né, et c'est une des raisons pour lesquelles il y a cette exaltation en lui, à côté du désespoir, de personnages indifférents. Il est né, si on peut dire, dans deux familles royales. Alors, n'exagérons pas, mais enfin, en Russie, c'est quand même ça. C'est évidemment, comme c'est le premier pays communiste de la Terre, c'est aussi où le premier pays aristocratique, où les titres existent. En Belgique aussi, d'ailleurs, bon, on est baron, mais enfin, ça fait un peu rigoler quand on est, c'est d'ailleurs une bonne chose par rapport à la France. Mais en Russie, en tout cas, c'est très important. Alors, son père, Broverman, a été un homme décisif dans la bataille la plus grande autour de Stalingrad, lorsqu'il a été mis à la tête de ce qu'on appelait le SMERSH. Smerspionam en russe, c'est-à-dire mort aux espions, c'était le contre-espionnage. Et il a été le chef technique du contre-espionnage pendant toute la guerre. Il était des généraux, d'ailleurs.
Et ces deux hommes, pour vous, ont façonné Poutine, donc qui s'est cru fils de héros, c'est ça?
Mais il est. Et l'autre, bien sûr, qu'il a adopté ensuite et qui n'a cessé, d'ailleurs en se faisant toujours du souci pour lui, de s'en occuper. C'est Youri Andropov qui est devenu successivement d'abord chef de l'étranger socialiste, c'est-à-dire de tous les rapports avec les partis frères, puis ensuite chef du KGB, et enfin, il a fini pendant deux ans difficiles où il était très malade, par être le chef suprême de toute l'Union soviétique. Et bien entendu, il a non seulement adopté Poutine, mais c'est là le document photographique qui a permis, plutôt cinématographique, de le comprendre. Puisque dans le carré de la famille, aux obsèques d'Andropov, carré de la famille qui est réservé aux membres de la famille, on retrouve le jeune Andropov, avec une coupe au bol d'ailleurs, qu'il a eu le goût de dépasser. Mais en tout cas, il était bien là, dans la famille, et il était considéré comme le fils adoptif.
Et Vladimir Poutine a une revanche à prendre sur la vie aujourd'hui?
Oui, alors il a la revanche à prendre sur l'enfance, où il a été maltraité horriblement. Il a une revanche à prendre sur le fait qu'il a été, à ses yeux, constamment sous-estimé. On n'a pas vu à quel point il était un prince du sang. Et donc, qu'il avait le droit, finalement, à jouer un rôle beaucoup plus important que celui qu'on lui avait réservé. Il a toujours fait appel des jugements un petit peu condescendants dont il a été victime. Et il a montré, ensuite, dans l'occupation du pouvoir et l'application des méthodes qu'on lui avait apprises, beaucoup de savoir-faire.
Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il est devenu paranoïaque?
Écoutez, je citerai ici Henry Kissinger, que je connais aussi, même les paranoïaques ont parfois des ennemis. C'est son cas. Alors, tout se déclenche quand, à un moment donné, on reçoit une nouvelle qu'on pense être une fake news annonçant qu'il souffre de la maladie de Parkinson. Alors, je rassure tout de suite nos auditeurs, le Parkinson, aujourd'hui, est bien mieux traité et il n'y aura pas le martyr qu'a connu, par exemple, le pape Jean-Paul II, avec l'incapacité et la douleur permanente. Mais en revanche, il est traité avec, évidemment, des doses de produits pharmaceutiques lourdes. Alors déjà, ça. Mais enfin, ce n'est pas ça. Ce qui s'est passé, c'est que, après avoir entendu qu'il souffrait de la maladie de Parkinson, les hackers, qui sont quand même très bons, et bien sûr ceux de la CIA encore peut-être sans doute meilleurs que d'autres, ont pu remonter à la source de la nouvelle. Eh bien, la source, c'est le Kremlin. C'est directement les amis de Poutine, les serviteurs de Poutine, ceux qui sont censés être sa garde personnelle, qui se sont permis de communiquer tout de suite en disant « Vous savez, vous croyez qu'il est le chef de toutes les Russies, il est d'abord ma malade de Parkinson. » Alors, évidemment, élevé dans cette méfiance depuis son enfance, et il avait des raisons de les avoir, cette méfiance, il s'est dit « Bon, ça y est, ils ont commencé à planifier ma destitution. »
Et en fait, son propre camp estimait qu'il faisait trop de concessions à la Chine à ce moment-là et tentait de le déstabiliser.
Voilà. Alors j'ai essayé de voir quels sont vraiment dans le camp les gens qui sont en cause et pourquoi ils ne sont pas d'accord avec Poutine. Alors je vous rassure tout de suite et je me rassure, ce n'est pas la politique très pro-israélienne que Poutine pratique, avec une amitié véritablement totale avec Bibi Netanyahou. Ça ne déchaîne absolument pas les autres, au contraire. Par contre, ce qu'il voit, c'est que pour faire la nique aux États-Unis, et c'est absolument nécessaire vu le PIB de la Russie, qui est bien entendu un peu inférieur à celui de l'Espagne, eh bien, la Russie ne peut pas faire le bras de fer, malgré le côté bagarreur de Poutine, avec la Russie telle qu'elle est, même avec les hydrocarbures. Alors, qui peut venir au secours de la Russie? C'est la revanche de l'histoire. C'est la Chine, que si longtemps Staline considérait avec mépris. Mais la Chine n'est plus celle de la Chine de Mao. La Chine est aujourd'hui une très grande puissance. Et si elle a mis son bilan, comme on dit en économie, au service de la politique russe de Poutine, c'est qu'ils veulent, évidemment, que Poutine réussisse. Alors, pour cela, évidemment, il y a un prix. Le prix, c'est que, la Chine est en train de contrôler économiquement et, je dirais même, par des biais en achetant des hommes politiques, des minorités, etc., elle est en train de contrôler, au fond, toute la Sibérie, au moins jusqu'au lac Baïkal.
Alexandre Adler, revenons quand même à l'Ukraine. Donc, il l'a envahi aujourd'hui. Est-ce qu'il peut gagner? Vous qui aimez citer Napoléon, quand il dit « on peut tout faire avec des baïonnettes, sauf s'asseoir dessus », ça veut dire que ça va être très compliqué, ça peut se terminer en guérilla?
Bien sûr, je peux dire qu'il n'a déjà pas gagné, parce que tous les objectifs qu'il se donne, et qui sont rationnels au sens militaire du terme, au sens où Hitler, je ne fais pas de parallèle avec Hitler, je ne le compare pas, mais Hitler, même dans sa folie la plus noire, avait une connaissance militaire, c'est ce que Keitel a dit au procès de Nuremberg, tout à fait sérieuse. C'est le cas de Poutine. Alors, dans l'affaire chinoise, quel est le problème? C'est qu'il a affronté directement un homme qui compte énormément aussi, et qui est un aussi mystérieux, toute cette histoire est mystérieuse, qui est Shoigu. Serge Shoigu, vous avez bien compris que le nom n'est pas russe, c'est un mongol de l'ethnie Bouriate, et d'ailleurs sa capitale, Oulan-Udé, fait penser aussi à Oulan-Bator. D'ailleurs, il a de très bons rapports avec la Mongolie indépendante. Mais Shoigu, pour lui, c'est inacceptable que Poutine, finalement, jouant au casino, ait bradé tous les avoirs de la Sibérie, de sa Sibérie, et Dieu sait qu'il a peur des Chinois. Et donc, il ne veut pas la politique chinoise de Poutine. C'est là la vraie grande divergence qu'ils lui ont dite. Et c'est ce qui a conduit Shoigu à mettre tout son poids avec d'autres pour lui dire « Écoute, maintenant, tu arrêtes, on te retire la signature. »
Il nous reste 30 secondes. Est-ce que cette guerre peut revenir comme un boomerang?
Oui, déjà sur Moscou, parce que bien entendu, lorsque Poutine fait la nique et défie absolument tous les engagements qu'il a pris avec tout le monde, avec Macron, avec la communauté internationale, avec l'Europe, il a aussi comme idée de se débarrasser de ce que j'appelle le clan des sages. J'ai énuméré Shoigu, Avdeyev, qui est le doyen du corps diplomatique, mais qui dirige toute la politique au Moyen-Orient depuis Rome, où il est ambassadeur de Russie, et puis quelques autres. Et ces gens-là, eux, par contre, les Spetsnaz, les Wagner et autres assassins, ils pensent à eux.
Merci Alexandre Adler d'avoir été avec nous en direct, et merci à vous, Daniel Velter. À demain matin, bonne journée. Bon jeudi matin à vous avec La Première. Nous sommes